Chapitre 2. La rumeur se répandit qu'un de nos oncles allait être puni. Même si je ne l'avais jamais vu, j'avais entendu répéter son nom au gré de leurs chuchotements de mauvais augure. Prométhée. Il y a longtemps, quand l'humanité frissonnait encore, recroquevillée dans ses grottes, il lui avait fait don du feu, défiant la volonté de Zeus. De ces flammes avaient jailli les arts et les bienfaits de la civilisation, dont Zeus, jaloux, espérait la tenir éloignée. Pour cet acte de rébellion, Prométhée avait été envoyé vivre dans la fosse la plus profonde des enfers, le temps que Zeus réfléchisse à une punition appropriée. Et ce dernier annonçait à présent que ce moment était venu. Mes autres oncles accoururent au palais de mon père, barbes au vent, leurs craintes débordant de leurs bouches. Ils formaient un groupe bizarrement assorti. Hommes fleuves aux muscles semblables à des troncs d'arbres, dieux mères trempés d'écume, des crabes accrochés à leurs barbes, vieillards filiformes avec de la viande de phoque entre les dents. La plupart n'étaient même pas des oncles, mais des sortes de cousins issus de germains. Des titans. De même que mon père et mon grand-père, de même que Prométhée, les survivants de la guerre entre les dieux. Ceux qui n'en étaient pas ressortis brisés ou enchaînés et qui avaient fait la paix avec la foudre de Zeus. Ils n'avaient été des titans qu'une fois, à l'aube des temps. Ensuite, mon grand-oncle Cronos avait entendu une prophétie selon laquelle son fils le renverserait un jour. Quand sa femme, Rhéa, donna naissance à son premier bébé, il le lui arracha des bras encore humides et l'avala tout cru. Quatre autres enfants naquirent ensuite, qu'il dévora également, jusqu'à ce que, désespéré, Rhéa en vienne à emmailloter une pierre de l'ange et la lui donne à avaler. Cronos crut au subterfuge et le nourrisson rescapé, Zeus, fut emmené sur le mont Dicté pour y être élevé en secret. Devenu homme, il se souleva bel et bien, cueillant la foudre dans le ciel et fourrant de force des herbes toxiques dans le gosier de son père. Expulsés de l'estomac de leur père, ses quatre frères et sœurs en furent vomis. Ils bondirent aux côtés de leurs frères, décidant de s'appeler les Olympiens, d'après le haut sommet où ils avaient établi leur trône. Les anciens dieux furent divisés. Si beaucoup d'entre eux apportèrent leur soutien à Cronos, mon père et mon grand-père se rangèrent aux côtés de Zeus. Certains prétendirent que c'était parce que Hélios avait toujours détesté l'orgueil vantard de Cronos. D'autres murmurèrent que son don prophétique lui permettait de prédire l'issue de la guerre. Les batailles emplirent le ciel, l'air lui-même s'enflamma et les dieux s'entre-déchirèrent férocement. La terre fut abreuvée de gouttes bouillantes de sang divin, si puissantes que des fleurs rares jaillirent là où elles étaient tombées. La force de Zeus finit par l'emporter. Il couvrit de chaînes ceux qui l'avaient défié et enleva leur pouvoir aux titans qui restaient pour les confier à ses frères et sœurs et aux enfants qu'il avait engendrés. Mon oncle Néré, jadis le puissant souverain des mers, devint le laquais de son nouveau dieu, Poséidon. Mon oncle Protée perdit son palais et ses épouses furent transformées en esclaves sexuelles. Seuls mon père et mon grand-père ne souffrirent d'aucune diminution de pouvoir, d'aucune perte de rang. Les titans ricanèrent. Étaient-ils censés se montrer reconnaissants? Hélios et Océan avaient remporté la guerre, tout le monde le savait. Zeus aurait dû les doter de nouveaux pouvoirs, de nouvelles fonctions. Mais il avait peur car leur puissance égalait déjà la sienne. Ils se tournèrent vers mon père, prêts à le voir protester, déchaîner ses flammes. Cependant, Hélios se contenta de retourner dans son palais souterrain, loin du regard de Zeus, aussi éclatant que le ciel. Les siècles avaient passé. Les blessures de la terre s'étaient refermées et la paix avait tenu. Toutefois, les rancœurs des dieux sont aussi immortelles que leur chair, et, les soirs de banquet, mes oncles se rassemblaient, pressés autour de mon père. J'aimais leur manière de baisser les yeux quand ils lui parlaient, de devenir silencieux et attentifs dès qu'ils changeaient de position sur son siège. Les coupes de vin se vidaient, la lumière des torches faiblissait. « Cela a duré suffisamment longtemps, » chuchotèrent mes oncles. « Nous sommes redevenus forts. Pense à ce que tes flammes pourraient accomplir si tu les libérais. Tu es le plus grand des dieux de sang ancien, plus grand qu'Océan lui-même, plus grand que Zeus en personne, si seulement tu le voulais. » Mon père sourit. « Allons, mes frères, » dit-il, « que racontez-vous donc? Il y a de la fumée et des saveurs pour tout le monde, n'est-ce pas? Ce Zeus convient plutôt bien. » S'il l'avait entendu, Zeus aurait été satisfait. Mais il ne voyait pas ce que je voyais en évidence sur le visage de mon père. Ces mots non dits, suspendus. « Ce Zeus convient plutôt bien, pour l'instant. » Mes oncles lui rendirent son sourire en se frottant les mains. Ils partirent, courbés sur leurs espoirs, songeant à ce qu'ils avaient hâte d'accomplir quand les titans régneraient de nouveau. C'était ma première leçon. Sous la surface lisse et familière des choses, il en existe une autre, qui attend pour déchirer le monde en deux. Mes oncles étaient désormais rassemblés dans la grande salle du palais, roulant des yeux angoissés. La punition soudaine de Prométhée était un signe, disait-il, que Zeus et les siens allaient finalement se liguer contre nous. Les Olympiens ne seraient pas satisfaits tant qu'ils ne nous auraient pas complètement anéantis. Il fallait que nous soutenions Prométhée, ou plutôt non, il fallait que nous nous prononcions contre lui pour éviter que la foudre de Zeus ne s'abatte sur nos têtes. J'étais à ma place habituelle au pied d'Hélios. Je restais silencieuse, de peur qu'il ne me remarque et ne me renvoie, mais je sentais ma poitrine se soulever brusquement à l'idée de cette possibilité bouleversante. Le retour de la guerre. Notre palais illuminé d'éclairs. Athéna, la fille guerrière de Zeus, nous pourchassant de son javelot gris, son frère de massacre, Arès, à ses côtés. Nous serions enchaînés et jetés dans des fosses ardentes d'où nul ne peut s'échapper. Calme et doré au milieu d'eux, mon père prit la parole. « Allons, mes frères, si Prométhée doit être puni, ce n'est que ce qu'il a mérité. Ne crions pas à la conspiration. » Malgré tout, mes oncles continuèrent de s'inquiéter. « La punition doit être publique. C'est une insulte, une leçon qu'il nous donne. Regardez ce qui arrive aux titans qui n'obéissent pas. » La lumière de mon père avait pris une teinte intense et blanche. « Ceci est le châtiment d'une rébellion et rien de plus. Prométhée s'est fourvoyé à cause de son stupide amour des mortels. N'y voyez aucune leçon pour les titans, vous comprenez ?» Mes oncles acquiescèrent. Sur leurs traits, leur déception se mêlait au soulagement. Pas de sang, pour l'instant. La punition d'un dieu était un événement rare et terrible, et les bavardages allaient bon train. Si Prométhée ne pouvait être tué, de nombreux tourments infernaux pouvaient remplacer sa mort. Serait-il question de couteaux, d'épées ou de membres arrachés? De piques chauffées à blanc ou de roues enflammées? Les naïades défaillaient dans les bras de leurs camarades. Les dieux fleuves prenaient des poses avec une expression assombrie d'excitation. Il est impossible de savoir à quel point les dieux craignent la douleur. Il n'y a rien qui leur soit plus étranger, et de ce fait, rien qu'ils ne brûlent plus de regarder. Le jour dit, les portes de la salle de réception du palais de mon père furent ouvertes en grand. D'énormes torches aux escarboucles précieuses luisaient sur les murs, et nymphes et dieux de toutes sortes se rassemblèrent dans leur lumière. Les minces dryades étaient descendues de leurs forêts et les oréades de leurs rochers. Ma mère était là avec ses sœurs naïades. Les dieux fleuves aux épaules de cheval se pressaient à côté des nymphes de mer à la blancheur de poisson et de leurs seigneurs de sel. Même les plus grands des titans étaient venus. Mon père, bien sûr, et Océan, mais aussi Protée aux formes changeantes et Néréé, le vieillard de la mer. Ma tante Sélénée, qui conduit ses chevaux argentés dans le ciel nocturne, et les quatre grands vents, derrière mon glacial oncle Boré. Un millier d'yeux avides. Les seuls absents étaient Zeus et ses Olympiens. Ils dédaignaient nos rassemblements souterrains. On racontait qu'ils avaient déjà organisé leur propre séance de torture privée dans les nuages. L'exécution de la punition avait été confiée à une furie, l'une de ces infernales déesses de la vengeance qui vivent parmi les morts. Ma famille occupait son habituelle place prééminente et je me tenais à l'avant de cette immense foule, les yeux rivés sur la porte. Derrière moi, naïades et dieux fleuves se bousculaient en chuchotant. « Il paraît qu'elles ont des serpents à la place des cheveux. Non, elles ont des queues de scorpions et des paupières dégoulinantes de sang. » L'embrasure de la porte restait vide. Et puis, soudain, elle ne le fut plus. Son visage était gris et sans pitié, comme découpé dans de la roche vivante. Et sur son dos, des ailes sombres se soulevaient, articulées à la manière de celles d'un vautour. Une langue fourchue dardait hors de ses lèvres. Des serpents se tordaient sur sa tête, verts et aussi fins que des lombrics, tels des rubans vivants entrelacés dans ses cheveux. « J'amène le prisonnier !» Sa voix résonna sur le plafond, un aboiement aussi guttural que celui d'un chien de chasse qui appelle sa proie. Elle entra dans la salle d'un pas décidé. Dans sa main droite, elle tenait un fouet dont l'extrémité traînait légèrement sur la pierre. Une chaîne s'étirait depuis son autre main et, au bout, marchait Prométhée. Il portait un épais bandeau blanc sur les yeux et les restes d'une tunique autour de la taille. Il avait beau avoir les mains enchaînées, tout comme les pieds, il ne trébucha pas. J'entendis une tante murmurer derrière moi que ces chaînes avaient été fabriquées par le grand dieu des forgerons, Héphaïstos, afin que personne, pas même Zeus, ne puisse les briser. La furie battit de ses ailes de vautour pour s'envoler, puis fixa les menottes au mur d'enceinte. Prométhée se balança, accroché au fer, les bras étirés au maximum, ses os formant des nœuds apparents à travers sa peau. Même moi, qui m'y connaissais si peu en matière d'inconfort, je sentis sa douleur. « Mon père allait dire quelque chose, songeai-je, ou l'un des autres dieux. Ils allaient sûrement lui faire une sorte de signe, lui dire un mot réconfortant. Ils étaient de la même famille, après tout. » Mais Prométhée resta pendu là, silencieux et seul. La furie ne s'embarrassa pas de sermons. C'était une déesse des tourments qui comprenait l'éloquence de la violence. Le son du fouet ressemblait au craquement des branches de chêne qui se brisent. Les épaules de Prométhée tressaillirent et une plaie de la taille de mon bras s'ouvrit le long de son flanc. En retenant leur respiration, les spectateurs autour de moi émettaient un sifflement pareil à celui de l'eau sur des roches brûlantes. La furie leva de nouveau son fouet. Crac ! Une bande de chair sanguinolente se détacha du dos de Prométhée. Elle se mit à lacérer pour de bon, chaque coup succédant au précédent, lui arrachant la peau en longues bandes qui s'entrecroisaient sur son dos. On entendait juste le claquement du fouet et les inspirations laborieuses et explosives de Prométhée. Les tendons de son cou saillaient. Dans mon dos, quelqu'un me poussa pour essayer d'avoir une meilleure vue. Nos blessures cicatrisent vite. Mais la furie connaissait son affaire, et elle était plus rapide. Elle donna coup sur coup, jusqu'à ce que le cuir du fouet soit trempé de sang. J'avais beau savoir que les dieux pouvaient saigner, je ne l'avais jamais vu. Comme il s'agissait de l'un des dieux les plus importants, les gouttes qui s'écoulaient étaient dorées, laissant sur son dos des traînées d'une beauté terrible. La furie n'en continua pas moins. Des heures passèrent. Peut-être des jours. Pourtant, même les dieux ne peuvent pas éternellement observer quelqu'un se faire fouetter. Le sang et la souffrance commencèrent à devenir ennuyeux. Ils se souvinrent des réconforts qui les attendaient, du banquet qui allait satisfaire leur plaisir, des banquettes couvertes de pourpre moelleux prêtes à les envelopper. Un à un, ils s'éloignèrent et, le dernier coup de fouet donné, la furie les suivit, car elle aussi méritait de festoyer après un tel labeur. Le bandeau de mon oncle avait glissé. Ses paupières étaient closes, son menton affaissé sur sa poitrine. Son dos était toujours suspendu, couvert de lambeaux ensanglantés couleur d'or. J'avais entendu mes oncles dire que Zeus lui avait donné l'opportunité de le supplier à genoux pour être puni moins sévèrement. Il avait refusé.